Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment une ville polonaise cohabite avec le camp d'Auschwitz 80 ans plus tard? Un texte de Patrice Sénécal paru le 27 janvier 2025 dans Le Devoir. Il y a d'un côté l'enceinte grisâtre du camp, intacte, comme encore figée en 1945, avec ses barbelés qui la coiffent, ses baraques en briques, ses tours de guet, ses vestiges de chambres à gaz. Alentour, une église, des immeubles résidentiels, des supérettes, un incessant va-et-vient d'autocars. La banalité du quotidien face au symbole tout-puissant de la barbarie nazie, au plus grand projet de mise à mort élaboré par l'humain. À l'aube du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, Auschwitz, petite cité polonaise de 34 000 habitants, cohabite ainsi avec ce fardeau de l'histoire. Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne d'Hitler en septembre 1939, c'est dans cette ville du sud-ouest, à 50 kilomètres de Cracovie, que s'implanta un an plus tard le camp de concentration et d'extermination, libéré le 27 janvier 1945. K.L. Auschwitz 1, 2 et 3, incarnation de la solution finale, sera de ces nombreux complexes concentrationnaires qui concourront à l'hécatombe de plus de 6 millions de Juifs d'Europe, dont 3 millions issus de Pologne, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Or, comment vivre dans un lieu recelant les pires atrocités du siècle dernier? À Auschwitz, chacun s'évertue à convaincre qu'une vie normale est ici possible. Si on y pensait tout le temps, on ne pourrait pas vivre, affirme ainsi Stanislav Oligarge, un gardien de sécurité au visage affable. Ce natif d'Auschwitz a conscience de l'histoire, difficile du lieu, puisque ses deux parents ont été faits esclaves par l'occupant. Son père a été envoyé de force dans l'Allemagne du Troisième Reich, tandis que sa mère, qui travaillait dans une ferme des environs, ne pouvait échapper à la vue sordide du crématorium en allant vendre le lait. Après la guerre, elle refusait de regarder des films sur la guerre. Il y a 30 ans, quand il y avait encore des gens qui avaient vécu cette période, le camp d'Auschwitz était tabou. Ils ne voulaient pas en parler. Jolie ville. Naître et grandir à Auschwitz, c'est, pour beaucoup d'habitants, devoir faire face à des regards interloqués. Souvent, les gens venus d'ailleurs pensent que nous vivons encore dans le camp, dit en soupirant Gabriella, une habitante de 21 ans qui travaille dans un café du centre, vantant sa jolie ville qui a beaucoup à offrir avec beaucoup de patrimoine. Quiconque met les pieds ici pourra s'en convaincre, affirme la jeune étudiante, qui compte néanmoins partir vivre à l'étranger. Nombre d'habitants sont cependant exaspérés que leur ville ne soit associée qu'à ce cataclysme historique. Le site d'Auschwitz-Birkenau, patrimoine mondial de l'UNESCO, transformé en musée, attire jusqu'à 2 millions de visiteurs par année. Une manne touristique non négligeable pour l'économie locale. Or, au-delà du camp, Auschwitz essaie aussi d'exister autrement qu'à l'aune de sa dimension tragique. Ces dernières années, des initiatives diverses ont vu le jour. Lorsqu'on traverse sur l'autre rive de la rivière Sola, resplendissante l'été, Auschwitz a tout d'une cité polonaise banale, avec son Rinec coquet, place du marché, ses petits cafés, son château datant du XIIIe siècle. Inauguré il y a une vingtaine d'années, le musée d'histoire juive d'Auschwitz, qui raconte cette vie florissante existant autrefois, fait partie de ce renouveau culturel. Au café Bergson, qui jouxte l'établissement, Le Devoir fait la rencontre inopinée d'Ila Weisgaut, une Israélienne de 34 ans qui s'est installée en Pologne par amour. Lorsqu'elle met les pieds pour la première fois à Auschwitz en 2007 dans le cadre d'un voyage éducatif, un tourbillon d'appréhension l'agite. mais le temps a passé depuis. Il a appris ses repères, son regard s'est adouci sur cette ville qu'elle a faite sienne. De la fenêtre de sa chambre, en se levant le matin, il y a ce décor renversant qui s'impose tout de suite à la vue d'Ila, avec le cimetière juif d'Osvietchim en contrebas, miraculeusement préservé, et au loin, les cheminées de l'ancien camp de travail Monowitz, qui faisait partie de l'ensemble concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau. C'est l'endroit où sa grand-mère fut emprisonnée comme du bétail et dont elle est ressortie vivante. Il y a deux types de survivants, ceux qui parlent et ceux qui ferment la bouche. Ma grand-mère faisait partie du deuxième type. Elle n'a jamais parlé de son expérience avec ses petits-enfants, en raison de son traumatisme. Alors, comme pour pallier ce vide, Ila se fait un devoir de perpétuer la mémoire de ceux qui ont péri. Vous écoutez comment une ville polonaise cohabite avec le camp d'Auschwitz 80 ans plus tard. Un texte de Patrice Sénécal paru le 27 janvier 2025 dans Le Devoir. Lieu chargé de malheur. Au-delà du musée d'Auschwitz-Birkenau qui s'étend sur 200 hectares, le site de l'ancien complexe concentrationnaire, bien plus vaste, recèle d'autres lieux chargés de malheur. Comme cette ancienne cantine destinée aux SS ou cette Frauenstrafkompanie, une baraque transformée en compagnie pénale pour femmes. La fondation, lieu de mémoire auxiliaire d'Auschwitz-Birkenau, s'attelle à les sortir de l'oubli. Dagmar Kopijaz fait partie de la petite armada de bénévoles qui collectent les artefacts à l'instar de chaussures d'anciens prisonniers, de vases, de meubles. Il y a une certaine nostalgie, ce sentiment de vide chez certains habitants à l'idée de cette coexistence d'autrefois. Veut croire Dagmar. Longtemps, Auschwitz a pourtant donné l'impression de vouloir esquiver son passé. Pendant l'époque communiste, la propagande officielle associait la mémoire d'Auschwitz à la martyrologie et à la lutte du peuple polonais et des autres peuples, quitte à gommer la mémoire du génocide juif. Certes, si nombre de Polonais ont pu finir dans les affres du camp, il n'en demeure pas moins que, sur le 1,1 million de massacres à Auschwitz, 90% étaient juifs. Si les consciences ont cheminé depuis, le passé douloureux fait encore l'objet de crispations. Même l'idée de la création d'un musée juif s'est heurtée à des réticences, il y a une vingtaine d'années, comme le rappelle Arthur Zindler, conservateur du musée d'histoire juive Auschwitz. On ne peut ignorer le rôle très important qu'ont joué les Juifs dans l'histoire d'ici. Il faut se faire le porte-voix de leur héritage. Avant-guerre, plus de 60% de la population d'Auschwitz était juive, à l'image d'innombrables bourgades de l'époque en Pologne, avant leur décimation totale. À quoi aurait pu y ressembler la vie sans la Shoah? La simple pensée donne le vertige. La Pologne comptait la plus importante population juive de toute l'Europe. Aujourd'hui, dans ce que fut jadis le berceau du judaïsme européen, Poland signifie en yiddish « ici tu te reposeras », il n'en reste que quelques dizaines de milliers. Nombre d'entre eux ont émigré après la guerre, notamment en 1968, lors de la campagne antisémite orchestrée par les autorités communistes de l'époque. Passé multiethnique. En Pologne, on n'enseigne pas l'histoire de la Pologne, on enseigne l'histoire de la nation polonaise, regrette Konstanty Gebert, intellectuel juif et contributeur de la revue d'idées Kultura Liberalna, qui reçoit dans son appartement varsovien où chaque mur est tapissé d'étagères de livres. Il déplore que le passé multiethnique du pays soit souvent balayé. Pour une grande partie des Polonais, l'histoire des Juifs polonais n'est pas la leur. Les Polonais, souvent, ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans des bourgades qui étaient à 80% juives avant la guerre. La perspective de vivre parmi les fantômes d'Oswiecim paraît néanmoins insupportable à ceux pour qui, comme Eva Luxinska, Auschwitz évoque avant tout une source de tourment. Fille d'une rescapée, cette guide dans l'ancien ghetto de Varsovie où elle vit confie d'une voix douce avoir l'impression de savoir ce qu'est Auschwitz depuis sa plus tendre enfance sans y avoir vécu. Le camp, sa mère qui échappa in extremis à l'enfer des chambres à gaz, en parlait sans cesse, du travail forcé, de la misère humaine, de la faim. Un jour, alors adolescente, la Polonaise de 74 ans aperçoit la photo d'archives d'une femme ayant l'air d'une morte vivante. C'est sa mère, dans la vingtaine, à Auschwitz. Elle servit de cobaye à des expériences médicales nazies et se fit injecter deux fois le typhus pour voir comment réagirait un corps déjà affaibli, sous-alimenté, relate Eva, qui a absorbé une partie de son traumatisme. Comme beaucoup de personnes appartenant à cette génération meurtrie, sa mère lui a dissimulé ses origines juives tout au long de sa vie, par crainte d'un antisémitisme qui ressurgirait. Un jour, je lui ai demandé de me dire la vérité sur notre judéité, et elle m'a répondu en yiddish. « Eva, ne pose pas des questions stupides. » 2 millions, c'est le nombre de personnes qui visitent le site d'Auschwitz-Birkenau, patrimoine mondial de l'UNESCO, transformé en musée, chaque année. C'était « Comment une ville polonaise cohabite avec le camp d'Auschwitz 80 ans plus tard », un texte de Patrice Sénécal paru le 27 janvier 2025 dans Le Devoir.
Le monde a besoin de plus de pandas. Un texte d'Yves Boisvert, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse. 4 jours après son 47e président, Washington intronisait ses 9e et 10e pandas. Bao Li et King Bao sont arrivés dans la capitale sous haute sécurité, dans un convoi de FedEx le 15 octobre 2024. Mais ils étaient en quarantaine jusqu'à la fin janvier 2025, quand le Parc zoologique national les a enfin montrés au public pour la première fois. Citation : Il y a quelque chose de tellement mignon et adorable chez les pandas. Ils sont irrésistibles, dit Summer Shepherd, une mère de famille arrivée dès l'ouverture, vêtue de son pyjama de panda. Mes enfants sont furieux. Ils voulaient venir, mais ils sont à l'école. Mon mari a un costume de panda rose et on sort comme ça ensemble des fois, même si les gens nous prennent pour des fous. » Fin de citation. Citation. Dans ce monde si divisé, évoque Summer Shepherd, en particulier depuis 5 ans, je crois que nous avons tous besoin de plus de pandas dans nos vies. Le simple fait de les regarder tomber d'un arbre et débouler une colline enneigée est si charmant et apaisant. Fin de citation. Ces ours masqués sont le symbole dodu et duveteux du soft power chinois. Exercer de l'influence par la séduction plutôt que par la soumission. Dans la subtile diplomatie du panda, les précieuses bêtes sont envoyées puis ramenées des pays suivant les hauts et les bas des relations avec la Chine, un peu comme on rappelle ces diplomates. Citation. Il y a 2 ambassadeurs chinois à Washington, moi et le bébé panda au zoo national. Fin de citation, avait coutume de dire un ancien envoyé chinois dans la capitale. Les premiers envois officiels aux États-Unis remontent à 1941, quand des pandas ont été donnés au zoo du Bronx. Mais les pandas de Washington ont une signification toute particulière. C'est Mao Zedong qui a fait cadeau de Ling Ling et Sing Sing en 1972 pour marquer le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis sous Richard Nixon. C'est la première dame, Pat Nixon, qui avait accueilli les précieuses bêtes. Les pandas ont fait sensation immédiatement. 20 000 personnes se sont déplacées pour les voir dès la première journée et plus d'1 million de personnes les ont visitées cette année-là. À noter que, comme le zoo fait partie du réseau Smithsonian, l'entrée est gratuite, comme celle de tous les grands musées de la capitale. L'un des deux pandas donnés par Mao est mort en 1992, l'autre en 1999. Depuis, la Chine ne donne plus de pandas, mais les prête. Disons plutôt qu'elle les loue, à hauteur d'un million de dollars par année. San Diego, Atlanta et Memphis en ont obtenu pour un temps, mais les deux seuls sur le sol américain sont à Washington. Au Canada, le zoo de Toronto en a hébergé deux pendant un certain temps, puis celui de Calgary, mais tous ont été rapatriés. Les derniers ont quitté Washington en 2023 et la ville attendait les suivants impatiemment. Car s'il y a la diplomatie du panda, il y a aussi le tourisme du panda. Molly Wagner, 9 ans, a vu les pandas de Mexico, de Hong Kong, de Taipei et de San Diego. « Ils sont cute et drôles », dit-elle en serrant contre elle deux pandas en peluche râpée rendus gris par des années de câlins. Parmi les médias présents pour cette cérémonie d'investiture zoologique, on comptait de nombreux médias chinois. Citation. « Il y a une grande fierté, mais plusieurs personnes en Chine ne sont pas contentes qu'on envoie des pandas, étant donné l'état des relations avec les États-Unis en ce moment. » Fin de citation, me confie un collègue qui ne veut pas être identifié. En principe, une partie des sommes recueillies des divers zoos du monde sert à protéger l'animal, qu'on ne trouve que dans les hautes montagnes du sud-ouest de la Chine, où il se gave de bambou. Citation. Les pandas géants sont un exemple de succès dans la conservation des espèces, dit Michael Brown Pasgrove, curateur des pandas. Leur nombre a augmenté, si bien qu'ils sont passés du statut d'espèce en danger à celui d'espèce vulnérable. Beaucoup de nouveaux parcs ont été créés en Chine, ainsi que des corridors pour connecter les habitats fragmentés. Fin de citation. Michael Brown Pasgrove a été formé en Chine et demeure en étroit contact avec les biologistes chinois qui surveillent l'état des bêtes avec rigueur. Chaque mois, un rapport est envoyé. Citation. Nous avons aussi un système de 40 caméras gérées par un bénévole. Fin de citation. La PandaCam du zoo est très populaire et pas seulement auprès des experts ou de gens qui se promènent en pyjama de panda. Pour les biologistes, la pédagogie du panda et la coopération internationale pour la sauvegarde de l'espèce font avancer la conscience écologique. Mais les progrès réels sont très difficiles à mesurer. En plus des 650 pandas en captivité dans des zoos en Chine, surtout, et ailleurs dans le monde, les autorités chinoises évaluent la population sauvage de pandas géants à 1864. Toujours selon les données officielles, ils étaient 1100 en 1980. Le New York Times expliquait que la technique de comptage consiste à analyser les restes de bambou dans les déjections des pandas dans la forêt. Comme chacun de ces zoos a une dentition unique, on peut déterminer s'il y a un ou plusieurs pandas dans un lieu donné. Plusieurs experts sont donc dubitatifs quant à la valeur de ces recensements indirects et on se demande comment on peut arriver à un nombre aussi précis. Les cartes satellites des habitats ont montré par le passé une fragmentation par la construction de routes notamment. Certains estiment qu'on sous-estime leur population pour laisser libre cours à l'industrie forestière. D'autres qu'on la surestime pour des raisons politiques. Les organismes de conservation indépendants estiment tout de même que l'état du panda géant s'est amélioré sensiblement dans les 40 dernières années. Parenthèse, je précise « géant » car le zoo abrite également des « petits pandas » ou « pandas roux », sorte de croisement extrêmement sympathique entre une belette et un raton laveur et largement sous-estimé, à mon avis. Fin de parenthèse. Les zoos contribuent au repeuplement car plusieurs pandas nés en captivité ont été relâchés en nature. Pour l'instant, Bao Li et King Bao, qui n'ont que 3 ans, vivent séparément. À leur maturité sexuelle, dans 2 ans, citation, on les présentera et on verra leur intérêt, dit prudemment Michael Brown Pasgrove. Là, ils sont comme à la garderie. Fin de citation. C'était « Le monde a besoin de plus de pandas », un texte d'Yves Boisvert, paru le 26 janvier 2025 dans La Presse.
Claude Berthiaume et l'exploit du huitième Dan. Un texte de Catherine Harvey-Pinard paru le 7 février 2025 dans la presse. Claude Berthiaume avait 17 ans en 1971 quand il est tombé sur un article de la presse au sujet de l'aïkido, un art martial peu connu à l'époque. En janvier dernier, 54 ans après avoir lu cet article, M. Berthiaume s'est rendu au Japon afin de recevoir son huitième dan dans la discipline. Un exploit à la fois rarissime et absolument remarquable. Autrement dit, M. Berthiaume est une référence mondiale en matière d'aïkido, même s'il n'est pas du genre à s'en vanter. « C'est toujours mieux qu'un autre le dise », s'exclame-t-il en riant, installé dans son bureau aménagé à l'extrémité de son dojo à Montréal. M. Berthiaume n'avait jamais pratiqué un quelconque art martial avant de tomber sur l'article en question le 1er mai 1971. Il était alors un joueur de hockey, sport dans lequel il avait, dans ses mots, un certain talent, mais pas un talent certain. L'aïkido permet au sourd-muet Amon d'oublier son handicap, titrait le journaliste Guy Robillard dans le dit article que votre représentant de la presse a retrouvé en fouillant dans les archives. Contrairement au karaté, l'aïkido est une technique essentiellement défensive. La première règle, c'est de faire l'impossible pour éviter un conflit, écrivait-il. Claude Berthiaume se souvient. « Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je me rappelle, mon père était dans le sous-sol. Je suis allé le voir et j'ai dit, il y a les inscriptions cet après-midi, pourrais-tu aller me porter là-bas? » L'homme de 71 ans se souvient de la fois où il s'est présenté au Centre Immaculée Conception pour son premier cours. Ignorant les règles et codes de conduite d'un dojo, il est monté sur le tapis avec ses souliers. Tout d'un coup, il y a un grand gars qui rentre et me dit « Non, tu ne t'en vas pas avec tes souliers sur le tapis. » J'ai dit « OK. » Quand le cours a commencé quelques minutes plus tard, le même homme s'est tourné vers lui. Je me suis dit « Ça y est, il est choqué parce que j'ai marché sur le tapis. » Mais non. La première chose qu'il a faite, c'est m'aider. Cette journée a été la première de la longue, très longue aventure de Claude Berthiaume dans le monde de cet art martial défensif et non compétitif. Le parcours d'une vie. M. Berthiaume est incapable d'expliquer ce qui l'a si profondément passionné dans cet art. Quelque chose au fond de lui s'est simplement allumé. Il y a de nombreux grades à obtenir dans les arts martiaux. Ça commence avec les Kyu, avant de passer au Dan. Le jour où M. Berthiaume a obtenu son premier Kyu, un autre élève passait son troisième Kyu. Je me disais, « Tabarouette, je ne serai jamais capable de faire ça », raconte-t-il. L'histoire a de quoi faire sourire plus de 50 ans plus tard, alors qu'il est l'un des rares non-japonais à avoir reçu un huitième Dan de la maison mère de l'aïkido. Au fil des années, M. Berthiaume s'est entraîné à raison de 6 à 7 fois par semaine. En 1973, il a pris part pour la première fois à un camp d'été aux États-Unis dans les White Mountains. C'est là qu'il a fait la connaissance de celui qui est devenu son instructeur et mentor, Kanai Sensei, Mitsunari Kanai, par ailleurs un élève direct du fondateur de l'aïkido. Plus j'en faisais avec lui, plus il a commencé à me prendre comme yuke. Le yuke, c'est celui qui attaque. À partir de 1983, M. Berthiaume s'est mis à suivre Kanai Sensei partout dans le monde. Alors enseignant d'éducation physique, il prenait plusieurs fois par année des congés sans solde afin de voyager. Ça me coûtait facilement 10 000 $ par année, mais c'était ma passion, raconte-t-il. Une semaine, on pouvait être sur la côte ouest des États-Unis et la semaine d'après, on était en Angleterre. Partout dans le bureau de M. Berthiaume sont affichées des photos de Kanai Sensei, mort en 2004. C'est aussi ce dernier qui lui a appris l'aïdo, soit l'art de dégainer l'épée, dans lequel il possède aujourd'hui un sixième dan.
en aïkido. M. Berthiaume a monté en grade au fil des ans, voire des décennies. Il a reçu son premier dan en 1974, son deuxième en 1978, son troisième en 1981, son quatrième en 1985, son cinquième en 1990, son sixième en 1998 et son septième en 2004. En janvier 2025, il s'est envolé vers Tokyo, au Japon, pour recevoir son huitième dan, un grade rare chez les non-japonais. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres reconnus par la maison mère du Japon, avance-t-il. C'est une reconnaissance assez extraordinaire, ajoute-t-il. C'est bon pour mon école aussi. Ça veut dire que ce qu'on fait est bon. Aïkido de la montagne. Claude Berthiaume a ouvert son dojo, l'Aïkido de la montagne, un nom qui fait référence à sa localisation au pied du Mont-Royal en 1985. Au bout de 3 mois, il avait sous son aile 100 étudiants. Il en a environ 70 à ce jour. Les inscriptions ont diminué avec la pandémie, explique-t-il. Le Montréalais, que l'on a pu voir à l'œuvre le temps de prendre quelques clichés avant notre entretien, ne cherche pas à être une copie conforme de son instructeur. Comme l'aïkido est un art, il y a une question de feeling, dit-il. Quand j'ai eu mon sixième dan, Kanae Sensei m'a dit « Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, je vais te soutenir. » Ça voulait dire « Tu peux avoir ton style, ce n'est pas mauvais. Les gens ne peuvent pas être tous pareils. » À travers les années, M. Berthiaume a voyagé dans plus de 20 pays pour l'aïkido. Aujourd'hui, c'est lui qu'on invite pour donner des stages. Cette année seulement, il doit se rendre en France, au Luxembourg, en Belgique, en Argentine et aux États-Unis, entre autres. M. Berthiaume a beau avoir reçu son huitième dan récemment. Rien n'a changé, lâche-t-il. Je suis la même personne. Même si on dit huitième dan, ça ne rend pas invincible. Personne n'est invincible. La vie continue, simplement. M. Berthiaume entend donc faire la même chose que dans les 54 dernières années, pratiquer et enseigner sa passion. C'était Claude Berthiaume et l'exploit du huitième dan, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 7 février 2025 dans La Presse.